Populaire, humour et démocratie, c'est la règle de trois de François Hollande. Populaire, il l'était avant, de la Corrèze à la Bastille, il l'est encore plus après. Monsieur le Président le sait bien, côté popularité, il est préférable d'être un ex. Il a d'ailleurs été un temps lui aussi le plus impopulaire de la 5ème République, avant qu'un suiveur ne lui vole le titre par effraction. Populaire, son bilan l'est devenu. Taux de croissance en hausse, déficit public en baisse, emploi créé, mariage pour toutes et tous, gestion à la fois autoritaire et humaine du terrorisme. Avec le temps et les leçons du pouvoir, vient la reconnaissance.
Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire.
Populaire au point qu'un spoiler sous forme de tract commence à circuler. Hollande 2022, mais non, c'est de l'humour. Cet éternel optimiste qui croit encore en la gauche, humour, ne nous en voudra pas d'en avoir fait une de ses règles. Lui, on a fait sa marque de fabrique. Tour à tour bonhomme, en toute sympathie, pince sans rire à la Bernard Cazeneuve, mordant tout en causticité, son humour parle pour lui.
Je vais ici vous faire une révélation. Mon œuvre n'est pas achevée, au moins sur ce plan-là. Merci.
C'est aussi une arme, un masque pour ne pas tout montrer, pour occulter peut-être une drôle d'enfance pas si drôle face à un père autoritaire avec lequel il ne s'est jamais vraiment entendu. Cet humour se fait coup de poing quand il s'agit d'évoquer, par exemple, les frondeurs et les 6% de Benoît Hamon à la présidentielle. Démocratie, le mot est important, plus encore en ce moment. Questionné par des gilets jaunes ici, malmenés ailleurs, la démocratie, la vraie, recule et les extrêmes avancent. En mettant son expérience au service de cette réflexion, François Hollande tente de répondre dans un livre à la crise démocratique. L'ex-président français et actuel président de la fondation La France s'engage ne cherche pas à refaire le monde, il n'en a plus le pouvoir, juste à faire émerger des solutions, dit-il, pour redynamiser la démocratie en France. Ça mérite réflexion.
Alors ces solutions, François Hollande, on va y venir dans un instant, mais d'abord le constat, cette crise démocratique, ce recul de l'esprit démocratique, c'est un phénomène qui n'est pas purement français, c'est européen et même occidental. Est-ce que c'est un peu le résultat, la faute de ce qu'on pourrait appeler l'ancien monde? Vous faites de la politique depuis 40 ans, est-ce que c'est pas votre génération politique justement qui a accouché de cette démocratie en crise?
Oui, ceux qui gouvernent ont toujours une part de responsabilité. Il y avait deux grandes formations politiques à l'échelle de l'Europe et même de l'ensemble des démocraties occidentales. C'était la social-démocratie et ce qu'on appelait la démocratie chrétienne pendant un temps, le centre-droit, la droite républicaine en France. Et ces deux grandes familles politiques ont gouverné successivement. Et on a pensé que ces alternances seraient de nature à d'abord... renouveler les politiques, à donner de la respiration à la démocratie, et force est de constater que ça a laissé la place à d'autres populistes le plus souvent, qui utilisent d'autres thèmes, l'immigration, la question identitaire, d'autres sur d'autres sujets, l'écologie, ce qui fait que ces deux grandes forces politiques ont perdu une grande part de la confiance des peuples, et même aux États-Unis, ce qui est intéressant d'observer, c'est que après la période Obama, qui était une période que l'on jugeait exceptionnelle, extraordinaire, qui ouvrait un temps nouveau, un président noir aux États-Unis, démocrate, qui voulait faire l'assurance maladie. Et on voit bien que la maladie, ça a été Donald Trump. Et il n'y avait pas d'assurance. Donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui un recul de, non pas de ces forces politiques-là seulement, finalement rien n'est jamais acquis, mais un recul de l'esprit, vous avez eu raison, de l'esprit démocratique. Et c'est vrai face à des puissances non démocratiques qui, elles, avancent, la Chine, la Russie, la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite.
Pour contribuer à réparer, à soigner cet esprit démocratique. Donc vous faites plein de propositions dans cet ouvrage, plein de propositions institutionnelles, l'allongement du mandat présidentiel à 6 ans, la réduction du mandat législatif à 4 ans, la suppression du poste de Premier ministre, la suppression aussi de l'article 49.3. En fait, vous évoquez les États-Unis, vous vous inspirez directement du régime présidentiel américain.
Oui, quand on dit qu'on s'inspire de l'Amérique, c'est généralement pas en faveur de la thèse que l'on défend.
Ça peut surprendre.
Oui, donc essayons de nous mettre au-dessus. On appelle régime présidentiel ce qui vient des États-Unis, c'est-à-dire un régime où le président a un pouvoir exécutif et où le pouvoir législatif, aux États-Unis le Congrès, a des responsabilités éminentes et vote le budget de manière souveraine, vote les lois sans qu'il soit possible, vous parliez du 49.3, d'intervenir sur le débat. Donc en réalité, c'est un régime d'équilibre des pouvoirs. Donc la Ve République en France est un régime mixte. Il est à la fois présidentialiste, j'ai été chef de l'État, je sais l'importance de ses prérogatives, et un régime apparemment parlementaire. Il y a un chef de gouvernement qui est théoriquement responsable devant l'Assemblée nationale, mais qui en fait procède du président. Donc en réalité, dans notre régime, ce que l'on croit être parlementaire ne l'est pas, et ce que l'on croit être présidentiel l'est par excès. D'une façon particulière, c'est l'hyper-président que certains avaient évoqué. Mais ce que l'on ne voit pas, et que je peux donner comme illustration de cette confusion qui quelquefois perturbe les citoyens, c'est que le président, il est responsable de tout, mais tout ne lui vient pas comme action possible. D'abord, il y a des élus locaux qui ont une responsabilité. Et ensuite, au sein de l'exécutif, le vrai chef, c'est le chef du gouvernement. Ce qui fait que, quand c'était un septennat, tout le monde comprenait l'utilité d'un Premier ministre. Soit parce que c'était l'homme qui mettait en œuvre les grandes orientations du président. C'était la présidence de Gaulle ou même Pompidou, même si c'était déjà plus compliqué. Avec Mitterrand, on est revenu à cette conception-là. Mais avec la cohabitation, on a vu des premiers ministres qui gouvernaient et qui, finalement, avaient l'essentiel du pouvoir face à un président qui était pourtant élu au suffrage universel. Donc pour arrêter cette confusion, il a été créé, introduit le quinquennat. Moi, j'ai soutenu le quinquennat.
Oui, vous le souteniez à l'époque.
Je pensais que c'était une bonne évolution. Et on voit que le quinquennat, mais c'est l'expérience qui le démontre, a aggraver encore la présidentialisation sans renforcer les droits du Parlement, et tout en gardant la confusion avec le Premier ministre, d'où les réformes que je propose.
Et l'idée d'un président directement responsable devant le Parlement, l'expression du poste de Premier ministre. Anne.
Oui, vous vous inquiétez dans votre livre de la tentation populiste qui traverse surtout les classes populaires, mais est-ce qu'il n'y a pas, à l'inverse, une tentation antidémocratique de la part de certaines élites, une espèce de retour en grâce du censitaire, et on considère que certaines questions sont trop complexes ou trop sérieuses pour être tranchées véritablement par le peuple? Je pense notamment au référendum de 2005, dont l'issue n'a pas été vraiment respectée en France, ou plus récemment au Brexit, auquel certaines élites ont mis beaucoup de temps à se résoudre.
Avant de décider d'un référendum, il faut bien mesurer les conséquences de cette consultation. En 2005, l'avait-on véritablement évalué? Beaucoup pensaient que le oui allait l'emporter et n'avaient même pas réfléchi à l'effet du non. Ce qui fait que quand le peuple s'est prononcé à 55% pour le non, on a fait comme s'il n'avait rien dit. Et
comme s'il avait mal
voté. À l'époque,
voté,
c'était Nicolas Sarkozy qui était président et il a fait en sorte de faire voter le même texte par la voie parlementaire. D'où
le traité de Lisbonne.
Le traité de Lisbonne. Un traité qui, franchement, n'était pas décisif et ne modifiait rien au fond dans l'orientation européenne. Puis ensuite, il y a le Brexit. Alors là, le Brexit, c'est peut-être l'inverse. C'est-à-dire ceux qui étaient pour sortir au Royaume-Uni de l'Union européenne n'ont pas dit tout à fait la vérité, n'ont pas évoqué toutes les conséquences du vote non. Et là, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple et qu'on voit même pour Boris Johnson, qui veut vraiment sortir, combien il est obligé de contourner le Parlement pour y parvenir. Donc je crois que quand il y a un référendum, il faut bien sûr que le peuple puisse dire et trancher une question majeure, mais il faut bien évaluer les conséquences du vote. Et il y en a. Je suis d'ailleurs assez favorable à ce que le président puisse recourir à un référendum, surtout s'il est élu pour 6 ans, parce qu'il a besoin d'avoir à un moment le retour de la légitimité. Et je suis même favorable à ce que l'Assemblée nationale, à la majorité, puisse décider aussi d'un référendum.
Justement, il y a un autre type de référendum qui est réclamé par une partie de la population. On évoquait l'aspiration démocratique des peuples. Il y a un mouvement qui va bientôt fêter son premier anniversaire. C'est le mouvement des Gilets jaunes qui appelle à de nouvelles mobilisations dans les jours qui viennent. Le premier anniversaire, ce sera le 17 novembre prochain. Et ce mouvement, eh bien, il réclame justement, il porte une réclame davantage de démocratie participative.
Oui, des outils un peu moins tièdes que ce qui est mis en place actuellement. Parce qu'on sait que depuis juin dernier jusqu'à mars 2020, les électeurs français peuvent par exemple soutenir la tenue d'un référendum sur la privatisation du groupe ADP, ex-aéroport de Paris. Et ce matin, le Conseil constitutionnel a enregistré 896 000 signatures. On est très très loin du seuil des 10% d'inscrits nécessaires. Il faudrait plus de 4,5 millions de signatures. Et puis même là, de toute façon, les députés pourront le rejeter. C'est pas très clair quand on vous lit ce que vous pensez de ces différents outils, ce qu'on appelle notamment le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, qui a beaucoup moins de verrous, un seuil plus bas.
Alors, d'abord, qu'est-ce qu'il y a dans la Constitution? Ça procède d'une révision qui a eu lieu en 2008.
Ça n'avait jamais été provoqué avant, hein, ce RIC, hein, c'est la première
mais
fois.
En 2008, oui. c'est le référendum d'initiative partagée, ça c'est dans la Constitution. Je n'avais pas voté cette révision, mais elle est maintenant la loi de tous, la loi fondamentale. Donc il faut 4,5 millions de signatures pour avoir la possibilité d'ouvrir la voie à un référendum. Il faut aussi avoir un certain nombre de députés et de sénateurs en appui 20%. De cette proposition. Mais dans le texte de la Constitution, il n'y a pas d'automaticité. C'est-à-dire qu'il suffit que le Parlement dise voilà, nous allons faire un débat, il n'y a pas de référendum.
Donc ça va pas assez loin.
Vous voulez le rendre automatique, s'il y a le nombre de signataires.
Je considère qu'il faut peut-être garder d'ailleurs le nombre de signataires, parce qu'il faut que ça ait un sens. Si on veut que le peuple soit solennellement appelé. Mais qu'à ce moment-là, ce soit automatique. C'est-à-dire, vous réunissez 4,5 millions de signatures, vous avez l'appui d'un certain nombre de parlementaires, vous avez dit 20%, ce qui est quand même possible, mais à ce moment-là, le référendum a lieu.
Oui.